Voilà. Donc, je vais d'abord dire quelques mots sur le contexte de cette présentation. Donc, je suis Maryse Lassalle, enseignante à l'UT, et je coordonne des forums qui s'appellent Changer de société. Donc, le premier a eu lieu l'année dernière, en mars 2011. Et le deuxième a lieu actuellement. Nous avons repris le même thème, c'est-à-dire l'idée de faire un panorama de la société et de ses problèmes, et puis chercher des solutions. Nous avons repris les mêmes thèmes, mais cette fois-ci, explorer du côté des femmes. Et donc, pour faire la liaison entre ces deux forums, celui de 2011, donc, qui était général, et celui de 2012 sur les femmes, nous avons donc souhaité présenter les livres ici, deux ouvrages dans la librairie Moula. Le premier est celui qui est issu du forum de l'année dernière, donc il s'appelle « Changer de société », avec un point d'interrogation. Hein, nous sommes très modestes, nous nous posons des questions surtout, plutôt que d'apporter des réponses, voilà. Ça n'a rien de péremptoire. Donc voilà, le premier livre « Changer de société », qui devait être présenté par Marie-Claude, mais qui le sera tout à l'heure, dès qu'elle arrivera. Et donc, nous avons choisi un ouvrage sur le féminisme, sur les luttes de femmes. Donc, je vous présente Josette Tratt et Marie-Annick Mathieu, qui viennent de Paris, qui sont toutes les deux auteurs d'un livre qui s'appelle « Les cahiers du féminisme », livre qui retrace 30 ans de féminisme à travers l'histoire d'une revue. Voilà, donc on va commencer par elles. Donc on est ravis de les accueillir. Elles sont déjà venues à Bordeaux en novembre faire une première présentation. Et donc je vais leur donner la parole pour présenter ces cahiers du féminisme. Voilà.
Donc je vais faire en deux temps, mais on va le faire peut-être à plusieurs voix aussi. C'est-à-dire à la fois présenter les cahiers du féminisme, dans quel contexte on est né, et puis éventuellement amorcer une réflexion, un début de réflexion sur la situation actuelle, parce que je trouve que ce n'est pas simplement intéressant de faire éventuellement dans la nostalgie. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ça le bouquin. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment se posent les questions aujourd'hui. Donc, les cahiers du féminisme, c'est une revue qui est née en 1977. Donc, c'était un moment caractéristique. Ce n'est pas la seule revue qui est née à cette époque. C'est au contraire une floraison de revues féministes qui sont nées à ce moment-là. Et ça intervenait au terme d'une décennie féministe très, très mobilisatrice, notamment autour de toutes les questions qui étaient liées aux batailles sur le droit à l'avortement, à la contraception, contre les violences, pour le partage des tâches, remise en cause des tâches traditionnelles entre hommes et femmes, aussi bien dans la famille qu'en dans le reste de la société. Et là, à cette époque, 1977, on vient de gagner une loi qui est imparfaite, mais quand même reconnaît le droit des femmes à interrompre leur grossesse. Et d'une certaine manière, ça va occasionner à la fois un moment de creux dans la mobilisation, le sentiment pour beaucoup que on va pouvoir souffler, mais en même temps, le sentiment aussi qu'il faut peut-être tirer des bilans et voir un peu dans la durée ce que pourrait être le féminisme, parce que ça a été une période d'agitation très intense où chacune, à travers ses affinités, ses tracts, ses leaders, etc., s'est affirmée. Mais on est à ce moment particulier où on a besoin de prendre un peu de distance, de réfléchir. Donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on sort. Alors, on a une caractéristique, c'est un peu étonnant, c'est-à-dire qu'on se dit à la fois féministe pour on était partie prenante et on est encore partie prenante que les femmes, comme on dit, s'auto-organisent, c'est-à-dire partout il y a une activité politique, sociale, etc. On pense que les femmes, elles ont toujours intérêt à agir collectivement, à réfléchir collectivement sur leur situation pour faire avancer leurs droits. Et puis, en même temps, on était une revue publiée par une organisation d'extrême gauche qui s'appelait la Ligue communiste révolutionnaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Voilà. Alors, donc, alors je dis c'est un peu paradoxal parce que c'est vrai que dans les traditions anciennes, disons des organisations politiques de gauche, généralement les partis avaient l'habitude de créer leur pseudopode d'une certaine manière. Hein, c'est le prolongement de leur organisation au niveau des femmes. Bon, nous, on pensait qu'il fallait qu'il y ait un mouvement unitaire, pluraliste et autonome. Alors, autonome, pour nous, ça voulait dire en particulier que... ça ne veut pas dire qu'évidemment, les femmes qui étaient dans ce mouvement, il y avait des femmes qui venaient de différents... qui avaient différents itinéraires, différents milieux socioculturels. Mais ça voulait dire que nous, on pensait que ce mouvement-là, c'était le moyen aussi d'imposer un rapport de force... vis-à-vis de l'ensemble des partis politiques, vis-à-vis de l'État, aussi pour se donner les moyens de contrebalancer l'influence à l'époque de l'Église catholique, etc., etc. Bon, on pourra revenir dans la discussion si ça vous intéresse, mais on se définissait comme ça. Et le deuxième point, on se définissait aussi comme féministe lutte de classe. Alors ça fait un peu lourd, un peu barbare comme dénomination, mais c'était pour nous différencier de plusieurs courants qui existaient à l'époque, qui existent d'ailleurs en partie encore aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois certaines féministes pour qui le patriarcat était l'ennemi principal. Nous, on pensait que pour combattre le patriarcat, pour défendre les droits des femmes, pour lutter contre l'oppression, il fallait aussi se battre en même temps contre une société organisée dans une perspective d'accentuation du profit, de la concurrence acharnée, de la compétition, et que ça impliquait de remettre aussi en cause la logique du système socio-économique qui est toujours présent, d'ailleurs, le système capitaliste. Donc, c'est en ce sens qu'on se disait féministe lutte de classe. Et en plus, c'était avec l'idée que nous, on souhaitait que le mouvement s'étende non seulement du côté des intellectuels ou simplement des femmes les plus diplômées, disons, mais qu'elles aient... que ce mouvement s'implante et se développe. Bon, on n'était pas les seuls à dire ça. Hein. Il y avait plein de militantes féministes dans les syndicats, voire dans les autres organisations de gauche qui se posaient aussi ces questions-là. Mais nous, on l'a affirmé haut et fort. On pensait qu'il fallait toucher les femmes de milieux populaires qui elles-mêmes étaient finalement qui subissaient le plus directement ces différentes oppressions. Voilà. Donc ça fait... Alors, notre vue... On a délibérément choisi de ne pas faire une revue purement théorique. Ça existait. C'était le cas, par exemple, et c'est encore le cas, par exemple, de nouvelles questions féministes. Hein. On voulait que ça soit aussi une revue qui parle des luttes sur tous les terrains. Donc, on a fait beaucoup de reportages. On est allé se balader à chaque grande occasion. D'ailleurs, ça nous a permis de voir un peu ce qui se passait dans la France et sur le plan international, parce que c'est vrai que pour nous, c'était très, très important d'être capable d'être à l'écoute de ce qui se passait, que ce soit en Amérique latine, dans l'Est de l'Europe, au sud de la Méditerranée, etc., etc. Donc, on a été une dizaine à porter ce projet pendant 20 ans, de 1977 à 1998. Alors, on a arrêté en 98 pour différentes raisons, non pas parce qu'on était en faillite, c'est parce que généralement, c'est une question qui se pose. Nous, on avait un équilibre financier qui nous permettait de continuer. En plus, c'est vrai qu'on avait le support d'une organisation derrière nous, mais on était autosuffisante de ce point de vue-là. Mais par contre, notre équipe a commencé à s'affaiblir parce que des camarades sont partis en province, d'autres ont eu des problèmes de santé et on s'est retrouvé un tout petit noyau. Et là, on s'est dit, si on n'a pas une relève rapide, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et malheureusement, on nous a donné beaucoup d'encouragement. On nous a dit, oui, c'est bien, continuez. Mais malheureusement, personne n'a rejoint notre collectif. Donc, on a arrêté, on s'est dit, bon, c'est provisoire. on va essayer de motiver d'autres jeunes militantes pour prendre la relève. Maintenant, bon, ça fait donc depuis 98, donc vous voyez, ça fait 15 ans, quoi, globalement. Malheureusement, on n'a pas eu de relève, donc on a continué, nous, à militer sur ces questions-là, aussi bien dans nos syndicats que dans des associations comme le Collectif National pour les droits des femmes, ou à écrire des articles ou des bouquins. Mais on n'avait plus cette revue. Voilà. Alors, il y a 2 ans, maintenant, on a dit, bon, mais quand même, c'est une expérience, bon, ça serait bien pour la faire connaître à des plus jeunes. Avant, on dit toujours ça, mais c'est vrai, avant de perdre complètement la mémoire, d'oublier ce qu'on a fait, d'essayer de retracer dans un bouquin notre expérience. Alors, le bouquin qu'on a fait, donc, qui s'appelle « Les cahiers du féminisme dans le tourbillon du féminisme et de la lutte des classes », ce n'est pas la reproduction des articles, parce que ça, il y a un DVD qui a été fait. Donc, pour ceux ou celles qui seraient éventuellement intéressés par la collection complète, ça, vous pouvez le voir, avec un petit bonus. Bon, voilà, comme ça se fait. Mais on a dit, on va essayer de réfléchir, justement, sur le bilan. C'est-à-dire, comment on voyait les choses il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on en est un petit peu. Donc, on a essayé de faire un va-et-vient entre le passé et le présent. Voilà. Donc, il y a évidemment des rubriques hein, qui reviennent assez facilement quand on se pose la question de l'oppression, de la lutte contre l'oppression. Ben, c'est bien évidemment la question du travail, aussi bien travail domestique que travail professionnel, donc avec tous les aspects d'analyse des politiques qui ont été mises en place depuis 30 ans, qui sont sanctionnées par le fait, traduites par le fait qu'il y a eu... ce sont les femmes qui ont été quand même les premières précarisées hein, à travers le temps partiel. Et bon, voilà. C'est aussi le travail domestique, ça vous avez sans doute l'occasion d'en discuter dans d'autres forums, etc. Mais la situation n'a pas fondamentalement, c'est pas fondamentalement modifié, même s'il y a quelques transformations qui sont plutôt liées, au mode de consommation. Plus qu'à une nouvelle répartition égalitaire entre les hommes et les femmes. Donc, les femmes passent moins de temps à faire la cuisine, mais pour autant, ce n'est pas une transformation radicale de ce point de vue-là. Il y aura quelques transformations quand même, il ne faut pas exagérer, mais c'est quand même marginal. Et puis, tout ce qui est lié à ce qu'on avait appelé toutes les luttes pour la libre disposition par les femmes de leur corps, et là, ce qu'on est obligé de constater, c'est plutôt une régression qui n'est pas nécessairement. Alors, il y a les lois qui ont permis des avancées, notamment la loi d'ailleurs de 2001 qui a été une loi qui a raccourci les délais, ou plutôt allongé les délais pour pouvoir avorter, qui ont en principe en 2003 aussi mis en inscrit dans des circulaires, etc., la nécessité d'introduire dans les établissements scolaires une initiation à l'éducation sexuelle, etc., et à ces questions. Ceci dit, à la fois les politiques d'austérité, de réorganisation du système de santé qui ont abouti de fait à introduire la logique de la rentabilisation dans les hôpitaux, fait qu'aujourd'hui, il y a près de 150 centres CIVG qui ont été fermés. Sur la région parisienne, il y en a eu plusieurs. À Lyon, il y en a eu. Je ne sais pas sur Bordeaux s'il y en a eu. Mais enfin, bon, je veux dire, toute la France a été concernée d'une manière ou d'une autre. En même temps, d'ailleurs, qu'on fermait les maternités de proximité dans de nombreux cas. Bon. Alors, ce que j'ai oublié de dire, évidemment, c'est que quand on a parlé du travail, on a parlé aussi des luttes au travail. Si vous avez l'occasion de survoler le bouquin, vous verrez qu'on fait référence à la fois à des luttes locales qui ont eu beaucoup d'impact, mais aussi à des luttes qui ont pris une dimension nationale. Ça a été le cas, par exemple, au moment des grandes luttes... rebondi depuis, mais par exemple du personnel des infirmières, hein, D'ailleurs, à ce moment-là, il y a eu d'autres luttes un peu dans le secteur du tertiaire et des soins ou du service du travail social, des luttes du même type qui avaient donné lieu à une coordination et pendant plus de 2 ans, des luttes, une activité, une coordination dans les hôpitaux, bon, quelque chose qui a été très, très fort et qui, d'ailleurs, posait la question... de la prise en charge de ces questions par les syndicats, parce que c'est des secteurs qui n'étaient pas énormément syndiqués. Bon, ça a été aussi les grandes luttes qui ont eu lieu en novembre 1995, autour de des questions de la sécurité sociale, des politiques globalement en matière d'emploi, etc. Et là aussi, on avait fait une série de reportages dans différentes villes, Toulouse, Rouen, Paris, je ne sais plus où, enfin, pour voir un peu comment les femmes avaient participé à ces semaines de grève. Parce que ce qui était vrai aussi, c'est que après la première, le début de cette grève qui a été dans la fonction publique, quand ça a été relayé par la grève des cheminots, brutalement, les actrices... de ce mouvement social ont disparu des médias, on ne parlait plus que des hommes, et alors que les infirmières encore, les postières, les instites, les cheminotes, etc., etc., étaient très présentes, et elles aussi. Bon, je ne développe pas, c'est pour vous donner un peu l'idée de ce qu'on a traité. Alors, par ailleurs, il y a toutes les questions qui sont liées à la question des violences, qui est un thème qui, justement, ne s'est pas, malheureusement, n'a pas vieilli, parce que c'est une question qui est toujours d'actualité. De ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'il y ait eu, là aussi, des modifications radicales. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été votée par le gouvernement, mais qui n'a absolument aucun moyen financier, qui... assez centré quand même sur la répression et pas suffisamment sur la prévention, qui n'est pas accompagné de ce qui peut paraître quand même assez déterminant, c'est-à-dire les centres d'hébergement pour permettre aux femmes qui subissent des violences d'avoir un refuge immédiat, même si on peut penser, c'est souhaitable, que les femmes puissent rester dans leur appartement et que ce soit les hommes violents qui en soient, chassés ou mis à la porte. N'empêche que quand ça se passe la nuit et qu'il y a nécessité de se protéger, c'est absolument indispensable, ce centre d'hébergement. Bon, voilà. Et c'est toutes les questions qui sont liées à la prostitution, etc., qui ont rebondi et qui, là, donnent lieu... C'est pour ça que dans le petit 4 pages que je vous ai distribué, il y a ce genre de questions qui est abordée, qui a, là, retrouvé une nouvelle actualité, parce que dans toute l'Europe, il y a plusieurs pays qui ont mis en place un système réglementariste, c'est-à-dire avec une législation qui légalise... c'est pas la question de la prostitution, parce que dans un pays qui se proclame abolitionniste, la prostitution n'est pas interdite, mais qui légalise d'une certaine manière le métier de proxénète, hein, en leur donnant un statut d'entrepreneur. Or, cette situation, que ce soit en Allemagne, en Hollande, en Espagne et ailleurs, loin de donner satisfaction même aux personnes qui font cette activité, c'est-à-dire les personnes prostituées, hommes, femmes dans leur grande majorité, hommes dans une minorité. Bon, ça se traduit par une surexploitation tout aussi catastrophique, et y compris d'ailleurs la traite purement et simplement de femmes qui viennent de l'étranger et qui n'ont pas de papier et qui se retrouvent en situation particulièrement vulnérable. Or, par rapport à cette réalité-là, c'est vrai que le mouvement féministe en France est très majoritairement abolitionniste, avec des débats sur lesquels on pourra revenir. Donc, on a repris aussi ces questions-là.
Aujourd'hui, une partie internationale.
Voilà. Alors, une partie internationale qui essaie de faire le point sur la crise, les effets de la crise sur les femmes, et avec aussi un petit... qui rappelle à la fois les thèmes qu'on a abordés dans les cahiers du féminisme et qui se pose la question, évidemment, aujourd'hui, un peu ce qui se passe du côté des révolutions arabes. Malheureusement, notre bouquin est sorti juste enfin, heureusement aussi, d'une certaine manière, mais il est sorti juste au début. Donc, on a eu, simplement, on a reproduit une interview d'une militante de Tunisie qui faisait un peu le bilan des premiers mois de la révolution tunisienne, etc. Alors, je vais juste terminer. Je ne sais pas, j'ai encore... ça va, le temps ? Bon, je prends juste 5 minutes. Hein. Sur la situation actuelle, parce que ce qui est plutôt positif, c'est que, je ne sais pas si vous le sentez sur Bordeaux, mais sur la région parisienne et dans quelques villes, on sent qu'il y a quand même un nouveau dynamisme qui a commencé à se manifester. C'est-à-dire que, bon, dans toutes ces années, il y a toujours eu des collectifs féministes, des associations, que ce soit le planning, les centres qui s'occupent de lutte contre les violences, y compris les commissions femmes dans des syndicats qui ont continué à travailler, etc. Mais c'est vrai qu'on pouvait se poser la question de savoir si des jeunes femmes allaient prendre la relève. Alors, on sentait déjà dans les études féministes, c'est-à-dire à l'université, là où il y a des enseignements sur ces questions-là, il y a une partie des jeunes étudiantes, et étudiants d'ailleurs, qui sont intéressés par ces questions et qui participent. Mais après, le militantisme au quotidien, c'est déjà plus fluctuant. Voilà, plus fluctuant. Bon. Alors, depuis 2-3 ans, il y a eu, à l'occasion d'ailleurs des 40 ans du féminisme en France...
Préciser quand même. Hein ? Il faut préciser les 40 ans, peut-être.
Oui, alors c'est une association... C'est-à-dire que à l'occasion des 40... Puisque le mouvement féministe a eu sa première apparition publique en 1970... à travers ce groupe de 10 femmes qui avaient été portées, hein, apporter une gerbe à la femme du soldat inconnu, puisque qui est plus inconnu que le soldat, sa femme. Donc c'était la première anecdote qui avait été popularisée par Le Monde, d'ailleurs, par la presse, parce qu'ils n'avaient rien à se mettre sous la dent. C'était en plein mois d'août. Et fort heureusement, cette initiative un peu symbolique avait eu un certain écho et avait été le point de départ. Donc, les 40 ans, ben, c'est 2010. Et il y a eu une série d'initiatives, de colloques, de films, d'initiatives multiples et variées à travers une association qui s'est montée à cette occasion pour préparer ces 40 ans. Et voilà. Donc depuis 2-3 ans, il y a pas mal de petits collectifs, plus ou moins importants, qui sont nés, qui regroupent des jeunes femmes. Hein. Vous avez entendu parler, tout le monde a entendu parler à la fois du collectif La Barbe. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est des jeunes femmes, c'est un petit groupe de femmes qui vont dans toutes les institutions sérieuses pour pointer du doigt le taux particulièrement élevé de féminisation. Donc, elles arrivent avec une barbe et elles font un peu d'agitation et mettent un peu dans l'embarras ces messieurs. Il y a des collectifs, d'ailleurs, dans différentes villes de province qui ont donné lieu à soit des sites, soit des nouvelles revues. Il y a eu une revue, je ne sais pas si elle continue, d'ailleurs, des fils à Strasbourg.
Oui, une sorte de pantalon, je ne sais plus.
Oui, les filles en pantalon.
Les filles en pantalon.
Bon, je donne ce titre parce que c'est marrant, quoi. Il y a une des associations qui a le plus pignon sur rue, c'est Oser le féminisme aujourd'hui, qui est une association qui s'est particulièrement développée ces derniers temps. Bon, à la fois parce que plusieurs de ses militantes et ses animatrices, disons, on le soutient largement du Parti socialiste parce qu'elles sont membres du Parti socialiste, elles ont pas mal d'écho dans les médias. Hein. Elles ont pris des initiatives aussi qui ont porté, c'est-à-dire par exemple, elles ont fait l'année dernière, elles ont réagi très vite quand la question de DSK Strauss-Kahn a été posée aux États-Unis. Elles ont pris l'initiative de faire des rencontres pour essayer de dénoncer le scandale. Elles n'ont pas été les seules, mais c'est vrai qu'elles ont joué un rôle moteur à cette occasion. Donc ça a d'ailleurs donné lieu à beaucoup de débats. Hein. Il ne s'agissait pas de trancher avant le procès, mais c'était de dire quand même... Ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde s'apitoie sur le sort de ce qui était censé être notre futur président, alors même que personne ne se posait la question de savoir qui était cette femme qui... cette femme de ménage dans un grand hôtel qui, en tous les cas, avait été amenée à porter plainte suite au comportement plus que discutable de DSK. Le procès est en cours encore du point de vue civil, mais en tous les cas ça donnait lieu, et ça donnait lieu à une publication ensuite qui s'est appelée un troussage de domestiques, faisant référence...
C'est pas osé le féminisme.
Non, ça c'est le troussage de domestiques, c'est Christine Delphi qui a coordonné une publication aux éditions Syleps, un petit bouquin qui a repris une formule de Jean-François Kahn, hein, qui est à la radio. Des journalistes lui avaient dit « Mais que pensez-vous de ce qui s'est passé ?» Oh, il dit « C'est un troussage domestique, bon, c'est pas bien, mais enfin, ça rien. » Bon, voilà. Donc, ça avait quand même pas mal choqué. Il y a eu pas mal de déclarations de ce type à cette occasion. Et ça a été un moment de réflexion, de manifestation, pour dénoncer cette société qui, justement, n'est pas choquée par ce genre de comportement. Voilà. Alors, ça a pas mal sensibilisé des jeunes femmes, en tous les cas sur la région parisienne. Et ce que je... ce renouvellement... Oui, j'arrête. Je conclue juste là-dessus. Évidemment, se fait dans un contexte politique complètement différent de celui que notre génération a connu quand on s'est lancé dans le féminisme. C'est-à-dire que c'est vrai que sur le plan international, on est dans une période de réorganisation très violente du capitalisme, hein, qui se traduit en tous les cas par ces... On savait déjà qu'existaient les plans, ce qu'on appelait les plans d'ajustement structurel dans les pays dits émergents ou dits du Sud, mais on les voyait de loin, hein, d'une certaine manière. Bon, pour ceux qui avaient des liens avec des amis, aussi bien en Afrique ou en Amérique latine, bon, c'était moins loin que ça, n'empêche que... Les Européens n'étaient pas, et les Européennes n'étaient pas encore touchées. Bon, maintenant, ce qui se passe en Grèce, on voit exactement ce qui peut nous attendre. Hein. Et ce qui peut nous attendre, c'est non seulement ça, mais c'est aussi en même temps, et c'est en ce sens que nous, on pense que c'est très important, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a place pour effectivement relancer ou continuer la lutte féministe, c'est qu'en même temps... la montée du racisme, de l'extrême droite, mais aussi d'ailleurs des fondamentalismes religieux, mettent, disons, en danger, hein, non seulement l'ensemble des droits démocratiques, mais plus directement les droits des femmes. Bon, et voilà. Alors j'arrête là, je m'excuse d'avoir été un peu longue.
Bon, moi, je m'appelle Marie-Claude Salicetti. Je fais partie du petit collectif informel qui s'est occupé du forum de 2011 qui s'intitulait « Changer de société » et de celui de 2012 qui est en cours qui s'appelle « Les femmes pour changer de société ». Et justement, ça m'intéressait ce que vous avez dit parce que je crois que ce forum « Changer de société » qui était organisé en pensant à la société en général, et Dieu sait qu'il y a besoin de la changer, hein, s'est terminé avec l'envie très forte de regarder les choses plus précisément du côté des femmes, parce que ça se tient effectivement. Et comme vous avez dit, ce sont les femmes qui, un peu partout dans le monde, sont un des principaux symptômes de la maladie du système, quoi, oui, hein, on peut dire. Voilà. Voilà. Bon, excusez-moi, je vais lire, c'est peut-être pas bien, mais comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Voilà. Alors, nous sommes quelques personnes, des femmes, des hommes, venus d'horizons divers, qui ont eu envie de se rencontrer pour créer ensemble l'occasion d'en rencontrer d'autres. Se parler, s'écouter, échanger, analyser, construire, s'amuser aussi. Pas d'étiquette particulière. juste un collectif informel, à géométrie variable, peut-être éphémère, peut-être pas. On n'en sait rien et c'est pas grave. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du livre, d'abord. Après, je vous dirai, à mon avis, de mon point de vue, ses points forts, et de mon point de vue, son point faible. Voilà. Alors, l'histoire du livre. En novembre 2010, les grandes manifestations pour sauver les retraites ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Un petit collectif d'universitaires de Bordeaux 1, dont Marie, qui est ici, dont Simone et Marie-Noël, organise une conférence sur le sujet pour lutter contre la désinformation et débattre des problèmes et des solutions possibles. Il décide de continuer cette action et d'élargir l'interrogation à tous les domaines de notre société actuellement menacée en proposant un forum où s'impliqueront différents groupes et structures. Mars 2011, donc quelques mois après, le collectif s'agrandit et se diversifie. Le programme s'est étoffé sur 4 jours et aboutit au forum « Changer de société » ou « Comment garder espoir et envie de lutter dans nos vies quotidiennes pour construire plus de liberté, de fraternité, d'égalité ». Diverses actions se sont mises en place sur Bordeaux et Bègles. Le but était de dessiner un panorama de notre société et de réfléchir ensemble à des transformations possibles à partir de réalisations ayant fait leurs preuves, bien que considérés souvent comme utopiques. Films, conférences, débats, expositions, chansons ont réuni différentes structures et points de vue. Ce forum s'est tenu du 2 au 5 mars 2011. Universitaires, artistes ou simplement citoyens engagés dans une réflexion sur notre société dressent un tableau de l'état actuel des différents domaines, droits et libertés, art et culture, travail et revenus. Des propositions sont présentées et montrent que des alternatives existent. Le 4 novembre 2011 paraît le livre « Changer de société ». Les débats animés réunissant des participants d'origine multiple avec la présentation des lieux et structures où s'est déroulé le forum sont retranscrits dans ce livre. Le Castor Astra, l'éditeur à Bègles, s'est engagé à nos côtés pour l'éditer. L'ouvrage « Changer de société » se veut un point de départ pour une réflexion collective et pour l'action à de multiples niveaux dans les associations, collectifs, syndicats, partis politiques, individuels également. À travers le monde se lèvent des résistances à un système politico-économique qui bafoue la démocratie, détruit méthodiquement les tissus sociaux et notre écosystème. Toutes les voix et les voix VOIES pour remettre l'humain à la place du veau d'or sont bienvenus. Le livre « Changer de société » en explore quelques-unes, vécues au plus près du quotidien. Les points forts du livre, de mon point de vue, peut-être que vous en aurez d'autres quand vous l'aurez lu, ceux qui ne l'ont pas encore lu. Le premier, c'est son point d'interrogation. Vous avez remarqué que le titre, c'est « Changer de société » suivi d'un point d'interrogation. Je trouve que c'est le premier point fort. Il s'agit essentiellement de questionnements. Pour être en acte, ils n'en évacuent jamais le point d'interrogation au cœur de toutes les démarches. C'est ce qui fait leur profonde humanité. C'est ce qui met en mouvement de multiples résonances chez le spectateur, lecteur, acteur. C'est ce qui le convoque à rejoindre le réseau des chercheurs et transmetteurs d'humanité. On en a sérieusement besoin aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ma part de cette façon que j'ai été aimantée vers le forum. Je ne connaissais pas le petit groupe de départ. Puis le livre à construire. Deuxième point fort, le foisonnement, la diversité, la multiplicité. Tous les domaines sont concernés. On y retrouve la complexité du monde et pourtant une direction commune. Résister à la marchandisation, désenchantement, déshumanisation du monde. Proposer une société créative, joyeuse, solidaire, humaine, tout simplement. Là, je vais vous lire quelques passages du livre que j'ai retenu. Nous sommes à l'ère de la co-construction, de la fertilisation croisée des expériences et des recherches. Conjuguons le « je lutte des classes » des récentes manifs à toutes les personnes et à notre temps. Vincent Taconnet, d'Espace Mars. un bouillonnement d'idées qui ouvre des perspectives de lutte contre un système capitaliste libéral qui verrouille toutes les issues. Jean-Michel Dauriac, à propos des universités populaires. Réunis sous le nom d'Appel des appels, nous affirmons la nécessité de nous réapproprier une liberté de parole et de pensée bafouée par une société du mépris. Appel des appels. Les combats des salariés ne doivent pas se mener uniquement sur le terrain de l'entreprise, mais ils doivent se mener tout autant sur le terrain de l'écrit et de l'image. Gérard Mordilla, écrivain. Troisième point fort, tous les langages sont convoqués. Du littéraire au revendicatif, du pictural au poétique, du rationnel à la folie des jeux de mots, vous écrivez mots comme vous voulez. C'est un florilège de la parole dans tous ses états possibles, le propre de l'humain, à l'assaut de la novlangue qui n'en est que la perversion. Je vous lis encore quelques passages du livre. La culture, c'est avant tout ce qui relie les humains les uns aux autres, ce qui humanise l'individu. Aujourd'hui, comme au temps de la Révolution française, l'émancipation passe par une métamorphose de la culture. Thierry Méo. Pour changer de société, le docteur Folamour vous propose de respirer, de réespérer. La révolution rêve l'évolution. La résistance est l'art de l'existence. C'est la question du citoyen dans son rapport informé, pensant, savant avec le monde, lui, ses rêves et ses références symboliques et imaginaires qu'il faut déplacer. Pierre Perrault. Variante chantée, mais je ne vais pas vous la chanter. Allez, citoyens, remuez-vous, vous êtes à l'abandon et nous vous vendrons bientôt les armes pour vous entretuer. Nous attendons le spectacle bien à l'abri dans nos banques. Ça, c'est le groupe La Collector qui l'a chanté avec des développements vraiment intéressants en 2011. Et nous, on a eu la chance d'avoir la lecture de ce poème récemment, puisqu'il y avait un festival à Targon ce week-end dernier où on était invité à présenter le livre. Et on a eu ce festival était merveilleux, et avec tout ce foisonnement aussi. Et notamment ce groupe, La Collector, il y avait un garçon qui nous a dit ce poème. C'était vraiment magnifique. Voilà, donc je lui rends hommage. Encore un point fort. Le collectif et l'individuel sont à tricoter ensemble. Et là, je me contente de lire des passages parce que vraiment, c'est démonstratif. Changer sa vie au quotidien, travail, logement, éducation, et peser sur ce quotidien. Construire une société autonome formée d'individus autonomes. Martine Alcorta. Le haut le cœur des consciences d'aujourd'hui contre la chasse aux Roms et les mesures touchant les gens du voyage, exécutées sans état d'âme par des fonctionnaires disciplinés, marquent le début d'un réveil des consciences. Emmanuel Filliol. Travailler à élaborer une nouvelle conception de la relation entre soi, le collectif et le politique, inventer de nouveaux modes de mise en collectif du travail, pourrait être une des voies pour explorer de nouvelles formes d'organisation politique et d'organisation sociale. Thierry Méo. Le grand soir pour lequel on aura milité toute une vie et qu'on n'aura pas vu se lever n'exclut pas les petits matins ensoleillés de pratiques révolutionnaires qui existent ici et là et dessinent à leur échelle un modèle de société du faire et du vivre ensemble. Michel Lulek. Enfin, dernier point fort, l'imagination de caisse de résonance, les journées, le livre, d'autres rencontres à venir, dont celle-ci. Car ces minorités qui proposent, réfléchissent et testent de nouvelles formes d'organisation sont ignorées du grand public. Derrière toutes les évidences qu'on nous répète inlassablement, il y a toujours des choix de société qu'on doit pouvoir être libre de questionner. Thomas Morel. Supposons que nous tombions de la Lune et que nous voulions savoir ce qu'est la France à travers son imaginaire. À quoi s'occupent les hommes et les femmes ? À travers une année de production cinématographique et télévisuelle, un an de production romanesque et la collection complète des journaux et magazines. Conclusion de l'étude. Les Français ne travaillent pas, sinon dans la police. Ils sont riches, et principalement occupées par leurs affaires de cœur et la gestion de leur patrimoine. Le travail est le vaisseau fantôme de l'imaginaire. Gérard Mordillat. Alors, de mon point de vue, ce qui a manqué au forum, c'est ce qui a fait, sa richesse potentielle la plus grande. Les femmes impliquées dans le forum ont trouvé que ce qui les concernait plus particulièrement nécessitait d'aller y regarder de plus près. Il est nécessaire aujourd'hui de se mobiliser pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Égalité beaucoup moins acquise qu'on pourrait le croire, à commencer par ici, chez nous. Les femmes sont la moitié de l'humanité, elles sont dans toutes les minorités, tziganes, sans papier, et vivent une oppression spécifique qui n'est pas une discrimination, mais tout un système organisé, social et patriarcal, lié à leur sexe biologique. Carina Lelièvre. Thierry Méo note que le partage des tâches entre hommes et femmes, première rupture avec la division la plus archaïque du travail, prélude à toutes les suivantes. Et pour les femmes sans papier, c'est la double peine. Nathalie Victor-Rétali l'a développé. Tout cela nécessite d'aller plus loin. Voilà pourquoi se déroule depuis le 3 mars et jusqu'au 18 le nouveau forum vu du côté des femmes, les femmes pour changer de société, à Bordeaux, Bègles et Lormont, qui complète et prolonge le propos du forum et du livre Changer de société, et le point d'interrogation est toujours là.